Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Julien Cellier, bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, bienvenue pour 2 heures d'info avec vous et avec à mes côtés Marion Calais. Bonsoir Marion.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
À la une, l'horreur, toujours en Ukraine, un journaliste français a été tué dans le Donbass aujourd'hui.
Frédéric Leclerc-Imoff avait 32 ans, il se reporter travaillait pour BFM Télé, il circulait à bord d'un bus humanitaire, il a été la victime d'un éclat d'obus.
À la une également ce soir, RTL enquête toujours après le fiasco du Stade de France, attente interminable. Mouvement de foule, vol à l'arraché, spectateurs avec tickets refoulés, gaz lacrymogène. À qui la faute ?
48 heures après la finale de la Ligue des Champions, le ministre Gérald Darmanin l'assure, tout est parti d'une fraude massive, industrielle au faux billet. Est-ce crédible ?
On posera la question à notre invité de 18h15, le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin. Il a participé à la réunion de crise avec le gouvernement ce matin.
Vous entendrez aussi un journaliste anglais qui a filmé le chaos, la sécurité, l'a forcé ensuite à effacer ces vidéos. À suivre aussi la libération conditionnelle de Patrick Balkany, finalement suspendu. Et la surprise danoise du tableau masculin à Roland-Garros. Il s'appelle Holger Rune. Il a sorti cet après-midi le finaliste de l'an dernier, Stefanos Tsitsipas. Les courses dans le Quintet Plus à Strasbourg, il fallait jouer le 5, le 9, le 8, l'As et le 7.
À 18h30, laissez-vous tenter. Dernière vous emmène à Londres au concert des ABBA en hologramme, s'il vous plaît. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien signer la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, on vous plonge dans l'univers des stadiers. Vous avez vu dépasser avec leur gilet fluo au Stade de France. Eh bien, vous allez comprendre pourquoi. On vous fera également découvrir ce petit village breton devenu, bien malgré lui, le paradis des teufeurs. Et on va résoudre un problème qui nous touche tous, le drame de la chaussette orpheline.
Aïe, aïe, aïe. À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet, ses polémistes. Et puis, le temps deux fois par demi-heure avec Claire Delorme. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain.
Des conditions toujours très calme avec un petit peu d'instabilité vers le centre-est et l'ensemble des reliefs et un mercure qui commence à regrimper.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal. Julien Cellier. Marion Calais.
Et c'est donc Emmanuel Macron qui l'a annoncé cet après-midi sur Twitter. Un jeune journaliste français a été tué aujourd'hui en Ukraine.
Il s'appelait Frédéric Leclerc-Imoff, il avait 32 ans, il était journaliste reporter d'images à BFM Télé et c'est au cours d'un de ses reportages dans l'Est du pays qu'il a été tué, Émilie Beaujard.
Oui, il filmait une mission d'évacuation de civils dans un véhicule humanitaire blindé. Selon les premiers éléments, le convoi qui allait chercher des civils dans la région de Severodonetsk a été touché par un tir russe. L'éclat d'obus a traversé le pare-brise et a touché Frédéric Leclerc-Imoff au cou. Il avait 32 ans, c'était sa deuxième mission en Ukraine. Le rédacteur de BFM TV qui l'accompagnait est blessé et leur fixeuse Oksana est indemne. Le Quai d'Orsay réclame ce soir une enquête indépendante sur les circonstances de ce drame. Le véhicule dans lequel était l'équipe de BFM circulait sur une route connue d'évacuation de civils. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, parle ce soir d'un double crime qui a visé un convoi humanitaire et un journaliste. Au moins 8 journalistes sont morts en Ukraine depuis le début de la guerre.
Émilie Beaujard, merci. Et la rédaction de RTL présente ce soir ses sincères condoléances à ses proches et à toute la rédaction de BFM Télé.
RTL Soir.
L'autre grand titre de l'actualité ce soir, c'est le gouvernement qui assume après le chaos samedi aux abords du Stade de France avant la finale de la Ligue des Champions.
Bousculade, vol, tentative d'intrusion, usage de gaz lacrymogène. Mais sans les décisions prises par la police et le préfet Didier Lallement, il y aurait eu des morts. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur qui a pointé à l'issue d'une réunion ce matin une fraude d'ampleur.
Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets. 30 000 à 40 000 supporters anglais, chiffre confirmé par l'UEFA, se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés. La présence massive de ces faux billets est effectivement le mal racine qui a causé les reports par 3 fois du commencement du match.
Et Gérald Darmanin d'évoquer même 70% de faux billets au premier filtrage. Ce sont des chiffres affolants. On va revenir sur ces chiffres et essayer de les vérifier, même si c'est compliqué, avec Alice Moreno et Nicolas Burnand qui sont en studio avec nous. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
D'abord Alice, 30 à 40 000 faux billets, c'est crédible ?
Alors il est
très difficile pour l'heure de déterminer avec précision le nombre de supporters anglais concernés par cette fraude. D'ailleurs, les autorités délivrent des chiffres à 10 000 personnes près, c'est énorme. Dès hier soir, la préfecture de police de Paris pointait ses 30 à 40 000 supporters avec de faux billets ou sans billets, tout simplement. Un chiffre estimé grâce à l'affluence dans les transports en commun en direction du Stade de France, RER et bus, et l'analyse des images de vidéosurveillance aux abords du site. Mais certains journalistes présents sur place, des connaisseurs des abords du stade ne croient pas à un tel chiffre pour la simple raison que le parvis ne permettrait pas de contenir une telle foule.
Difficilement vérifiable, donc on le comprend bien. Mais Nicolas Burnand, est-ce que c'est au moins possible?
Oui, absolument. Lors de cette finale, il y avait deux types de tickets. D'abord, ceux imprimés par l'UEFA, l'organisateur, ou via ses réseaux de distribution. Ce sont les billets en carton. 22 000 exemplaires étaient réservés aux supporters anglais. Ils sont difficilement copiables grâce à des techniques proches des billets de banque, mais cela reste possible. Ensuite, les billets numériques, scannés directement sur le téléphone portable ou imprimés à la maison. Et là, il n'existe aucun moyen d'empêcher de les imprimer plusieurs fois avant, par exemple, de les revendre. Or, chaque place a un numéro unique et une fois scanné, il ne permet pas d'autres entrées. Samedi soir, à la sortie du RER D, en zone de pré-filtrage, un billet sur quatre était faux, selon les informations recueillies par RTL.
Et si c'était avéré, cette fraude d'ampleur, ce serait inédit?
Alors, ce qui est inédit, c'est l'ampleur de cette fraude présumée que l'enquête devra déterminer. Le 1er juin 2019 déjà, lors de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et Tottenham, l'UEFA avait annoncé qu'un grand nombre de faux billets circulaient, sans en donner le nombre exact, et que des enquêtes judiciaires avaient été ouvertes. Des places étaient affichées à plusieurs dizaines de milliers d'euros sur des sites de revente en ligne.
Je me tourne à nouveau vers vous, Alice. La suite maintenant, c'est quoi?
La suite, elle appartient aux enquêteurs, à la justice, pour tenter de déterminer les comptes autour de cette fraude massive. Nicolas l'évoquait à l'instant, établir précisément l'ampleur du phénomène, les techniques de fraude employées et le rôle que cela a pu jouer dans les débordements. Le préfet de police de Paris a annoncé dès hier son intention de saisir la justice et on a appris cet après-midi l'ouverture d'une enquête confiée à la sous-direction des affaires économiques et financières de la police judiciaire parisienne.
Explication signée Alice Moreno et Nicolas Burnand pour RTL.
Alors de son côté, Londres appelle à une enquête complète de l'UEFA avec les autorités françaises et dans ses investissements. Au-delà de la question de ces billets qu'on a évoqués, se posera aussi, sans aucun doute, la question des transports.
Oui, parce que ça, c'est l'autre point central de ce samedi soir de confusion. Et même initial. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
La desserte du Stade de France avait été mal anticipé.
Oui, car ce soir-là, il y avait déjà un appel à la grève sur le RER B. En conséquence, la RATP et la SNCF ont donc conseillé aux supporters de prendre le RER D pour se rendre au Stade de France. Décision prise en accord avec les autorités. Tout le monde était au courant. Consigne suivie, puisque 37 000 voyageurs ont donc emprunté la ligne D. C'est presque 4 fois plus que d'habitude lors d'un événement au stade. 6 200 voyageurs ont emprunté la ligne B, presque 3 fois moins que d'habitude. Tout ça, ça ne pose pas de problème en réalité. La consigne a été suivie, mais il semblerait que les postes de filtrage dont on a parlé tout à l'heure, n'aient pas été suffisamment nombreux, notamment à la sortie du fameux RERD qui était avec beaucoup de monde tout simplement. La préfecture essaye d'accuser les transports alors qu'ils savaient très bien que les supporters allaient se reporter sur la ligne D, s'agace ce soir un cadre de la SNCF. On avait pourtant prévenu, cela c'est un autre. Le résultat lui est sans appel. Avec trop de monde, certains points de filtrage ont très vite été saturés alors que c'était franchement prévisible.
Ouais, inadéquation donc entre desserte et points de contrôle. Arnaud Touche, merci. Des points de filtrage comme des goulets d'étranglement donc qui, quand ils ont été le fait, ont donné lieu à d'importants mouvements de foule sur le parvis du stade. Des mouvements dont des malfrats ont parfois profité, comme l'a raconté à Christian Olivier Patrick Gobert, le patron de l'association du Paris FC.
J'ai fait 3 Coupes du Monde, je suis allé un peu partout dans les stades. J'ai été abonné à l'OM, c'est quand même un stade chaud, au Parc des Princes à une époque du PSG de Mustapha Dalev ou de Tafet Tuzi. J'ai jamais eu peur dans un stade, jamais. Mais j'ai eu peur samedi, j'ai couru parfois pour échapper au gaz. Et il y a 2 gars qui m'ont chopé, mais des gars de là-bas, qui m'ont dit « Ah monsieur, on va vous protéger ». Et en fait, ils n'étaient pas en train de me protéger, ils étaient en train de me toucher à l'intérieur de ma veste. Il y avait des gens qui étaient là pour faire leur petite délinquance, leur petit business. Ils sont là que pour ça.
Le patron de l'association du Paris FC avec Christian Olivier pour RTL. Les ministres de l'Intérieur et des Sports seront auditionnés mercredi par la Commission des lois et de la culture au Sénat sur cette affaire.
Des ministres qui ont échangé donc avec le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin. Il sera notre invité dans quelques minutes. Vous entendrez aussi un journaliste anglais. On va le joindre parce que lui, il a filmé le chaos samedi soir et la sécurité l'a contraint à effacer ses vidéos. Votre journal se poursuit dans un instant dans RTL Soir. Il pensait pouvoir sortir de prison, là, dès mercredi, mais le sort de Patrick Balkany n'est pas encore réglé. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. Près de 4 mois après son retour en prison, Patrick Balkany se voyait déjà libre. Finalement, ça n'est pas fait.
Oui, dans un premier temps, cet après-midi, il a été question d'une libération conditionnelle prévue mercredi, après-demain donc. Mais finalement, donc, ce n'est pas encore le cas. Il va falloir qu'il patiente un peu, hein, le NAF.
Oui, encore un peu, parce que le parquet a décidé de faire appel. Et cet appel suspend la décision du tribunal d'application des peines qui avait décidé donc de laisser sortir Patrick Balkany pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il avait pris conscience apparemment de ses précédentes erreurs et parce qu'il avait commencé à rembourser depuis 3 mois. Il verse 1300 euros chaque mois au fisc. Alors sur 4 millions d'impôts sur la fortune de fraude, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'était un signe de bonne volonté, a estimé le tribunal. Ça n'a pas suffi pour le parquet, qui s'était opposé lors de l'audience à la libération de Patrick Balkany, en expliquant que l'ancien élu des Hauts-de-Seine était toujours opposé au principe de sa condamnation. Il va donc y avoir une audience en appel dans 2 mois maximum. Et à l'instant, les avocats de Patrick Balkany font savoir par communiqué qu'ils dénoncent cet acharnement judiciaire pur et simple. Pour eux, la décision de libération conditionnelle de Patrick Balkany était logique pour un homme de 63 ans qui avait purgé près des 2/3 de sa peine.
Merci Anne Le Hennaff. Il n'y aura aucun rattrapage sur la facture d'électricité des Français l'an prochain. La promesse du ministre de l'économie aujourd'hui, hein, Bruno Le Maire, qui balaye donc les craintes d'un rattrapage après la mise en place récemment du bouclier tarifaire.
À Roland-Garros, la suite des 8e de finale avec une nouvelle surprise aujourd'hui.
RTL, Roland-Garros 2022.
Bonsoir Isabelle Langer.
Bonsoir.
Cette surprise, elle est danoise. Il s'appelle Holger Rune. C'est bon, c'est la prononciation c'est est bonne.
Exactement.
Elle bosse son danois.
Hein. Il a 19 ans. J'ai beaucoup travaillé mon danois et il a sorti Holger Rune, le finaliste sortant, hein, Stefanos Tsitsipas.
Incroyable, numéro 4 mondial, Tsitsipas. 23 ans, il fait presque figure de doyen face à ce gamin de 19 ans. Une victoire 7-5, 3-6, 6-3, 6-4. Et il va falloir s'habituer à Holger Rune. Vous imaginez, il y a un an, il n'avait même pas le classement pour disputer les qualifications ici. Il était 313e mondial. Eh bien, en atteignant les quarts de finale ici à Roland-Garros, celui qui avait gagné le tournoi chez les juniors en 2019 est déjà assuré de monter au 28e rang mondial. Mais aujourd'hui, il a eu du culot, du panache et un toucher de balle, une main comme on dit dans le milieu, pour battre Stefanos Tsitsipas sans complexe. Et puis finalement, eh bien, on aura un quart de finale totalement nordique mercredi, puisqu'il retrouvera en quart de finale le Norvégien Rude, qui a lui éliminé le Polonais Urkaz. Alors que le match entre Rublev, le Russe et Zinner va débuter sur le court Suzanne Lenglen, et que le match de session du soir opposera Cilic à Medvedev. Chez les femmes, 2 Russes se sont qualifiées aujourd'hui pour les quarts de finale, Kudermetova et Kazatskina. Pegula, l'américaine, a battu la roumaine Begu. Et en ce moment, Swiatek, la numéro 1 mondiale, est opposée à la chinoise Zheng, 19 ans. 4-2 pour la numéro 1 mondiale, Swiatek.
Merci Isabelle Langer. Et demain, à noter que le quart de finale, très attendu, forcément, entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, se déroulera en soirée, en nocturne, donc sur Amazon Prime, mais exceptionnellement accessible gratuitement.
Bon, on sait ce qu'on fait demain soir. Merci beaucoup, Marion. Le temps pour demain, Claire, dites-nous tout.
Alors, ce sera quand même des conditions relativement calmes pour une fin mai et même encore un petit peu fraîche, hein, surtout en matinée où justement on n'atteindra pas en matinée les pas plus, on va dire des 8 degrés, que ce soit pour les côtes normandes ainsi que pour la Champagne et la région Grand Est. Donc la petite laine ne sera pas trop, alors que ça sera quand même un petit peu mieux en direction du sud. Et donc dans l'après-midi, par contre, le mercure aura tendance à regrimper. En moyenne, ça sera 20 à 23 degrés pour la moitié nord et de 24 à 28 degrés pour la moitié sud. Donc avec toujours des conditions assez calmes. Là, on verra plus le soleil, ça sera des Pays de la Loire, encore vers la région Grand Est. Partout ailleurs, ça sera un petit peu plus variable. Donc oui, des passages nuageux, mais aussi espacés de belles éclaircies. Là où on aura un petit peu plus d'instabilité, ce toute la journée, ça sera surtout pour la région Auvergne-Rhône-Alpes où ce sera bien couvert et justement on n'est pas à l'abri d'une petite averse, surtout en fin d'après-midi avec un coup de tonnerre sur l'ensemble des reliefs.
Merci Claire. Dans un instant, eh bien RTL Soir continue d'enquêter. Qui est responsable après le fiasco du Stade de France ? Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis, sera avec nous. Il a participé à la réunion avec les ministres ce matin. En ligne également avec nous, un journaliste anglais. Il a filmé le chaos, mais la sécurité l'a ensuite forcé samedi soir à effacer les images. Il va nous raconter.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
les invités d'RTL Soir.
18h16, bonne fin de journée RTL Soir à vos côtés avec toujours cette même question ce soir. À qui la faute ? 48 heures après le chaos du Stade de France, cette finale de la Ligue des Champions, Real Madrid-Liverpool gâchée qui a tourné au fiasco, sécurité débordée, supporters qui attendent des heures, certains avec des tickets qui ne peuvent pas rentrer, d'autres sans tickets qui arrivent à se faufiler, des vols à l'arraché, des gaz lacrymogènes, des enfants, des ados en pleurs contre les grilles. Bonsoir Mathieu Hanotin.
Bonsoir.
Vous êtes le maire de Saint-Denis, vous avez participé à la réunion de crise à la mi-journée avec les ministres des Sports, de l'Intérieur, les préfets, l'UEFA. On a l'impression que chacun se renvoie la balle depuis deux jours. Est-ce que c'était aussi le cas ce matin autour de la table ?
Écoutez, moi en tout cas, l'approche dans laquelle j'étais, c'était pas de chercher un coupable ou un responsable, mais c'était plutôt de voir comment est-ce qu'on identifiait les points de défaillance pour pas que ça se reproduise. Mmh. Parce que c'est quand même ça l'enjeu. L'enjeu, ce qui est fait est fait. Heureusement, je croise les doigts, un drame a été évité. Le ministre l'a dit, mais pour avoir été sur place, effectivement, il y a des moments où c'était extrêmement tendu, et on n'est pas passé loin. Un drame a été évité. Pour autant, c'est pas parce que le pire a été évité que c'était bien, quoi. Je veux dire, non. Moi, ça fait 15 ans que je vais au Stade de France régulièrement. J'avais jamais connu une situation comme celle qu'on a connue, samedi soir.
Pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a pris la parole après la réunion de ce matin, la racine de ce chaos, c'est, dit-il, une fraude massive organisée aux faux billets. Il parle de 70% de faux billets au préfiltrage. On se demande si c'est crédible, ce chiffre, parce que si c'est avéré, ça veut dire qu'il y a une mafia qui a créé une billetterie alternative.
Alors, deux choses. D'abord, moi, je ne dirais pas que c'est la racine du problème, mais plutôt la goutte d'eau qui finit de faire déborder le vase. C'est qu'on a eu... cette affaire, c'est multifactoriel, comme toujours. C'est comme un crash d'avion, c'est rarement une cause. C'est une plus une plus une, et la conjonction du tout, avec souvent, à la fin, un petit truc qui fait l'étincelle. Là, les faux billets, à la fin, c'est ce qui fait déraper.
Mais au départ, il y a une mauvaise orientation des spectateurs.
Au départ, il y a plein de petites décisions ou aléas. La grève qui fait qu'on reboote les gens sur le RERD. Pourquoi pas ? Mais là, par contre, effectivement, il ne fallait pas les laisser rentrer dans le tunnel. Il fallait changer le plan de circulation et les faire traverser à pied la plaine Saint-Denis pour les faire rejoindre le RER B.
On parlait de chiffres. Il y a eu ce chiffre des faux billets évoqué par Gérald Darmanin et puis cet autre chiffre évoqué dès ce matin sur RTL par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Je vous propose de l'écouter.
Il y a eu d'abord cet afflux de supporters britanniques sans billets ou avec des billets falsifiés. Entre 30 et 40 000 personnes. 30 et 40 000 personnes, c'est considérable. Quand on a une capacité Stade de France à 80 000, c'est plus de 45% de sureffectifs. Donc ça a créé une pression exceptionnelle sur les forces de sécurité.
30 à 40 000 personnes avec des faux billets ou sans billets, c'est considérable. Ça veut dire un Stade de France et demi sur le parvis. Les journalistes qui étaient présents au stade, les Français, mais aussi et surtout britanniques, doutent de ce chiffre. Est-ce que vous en doutez également ?
Bon, écoutez, moi, honnêtement, je ne suis pas le mieux placé pour penser sur un chiffre précis. Ce que je peux par contre témoigner, c'est qu'il y avait beaucoup, 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 beaucoup de monde, y compris aux alentours, y compris aux abords, en première, en deuxième couronne du Stade de France, et plus que ce qu'on en voit sur n'importe quel événement habituel. Voilà, ça c'est une certitude. On le sait aussi, il y avait tellement plus que ça a fait déborder les préfiltrages qui n'ont pas joué leur rôle. Donc là, il y a clairement un dysfonctionnement dans la méthodologie du préfiltrage qui a été aggravé par les arrivées tardives. Les arrivées tardives, il y a plusieurs explications, il y a les RER, il y a toutes ces choses-là. Il y a aussi une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, moi je l'ai rappelé ce matin, c'est la décision pour le coup du préfet de police, contre mon avis, d'arrêter la vente d'alcool aux abords du Stade de France à 18h. On avait déjà eu le même problème sur la finale de la Coupe de France. Ça incite les supporters, les spectateurs, à ne pas venir en avance au Stade de France. Et du coup, tous ces petits flux qui se reportent sur du plus tard ont fait exploser la machine.
Mathieu Hanotin, restez avec nous. On parlait des journalistes présents au stade. Certains ont filmé le chaos. Eh bien, l'un d'entre eux a été contraint d'effacer ses vidéos. Il est avec nous depuis le Royaume-Uni. Bonsoir, good evening, Steve Douglas.
Good evening to you as well.
Alors, vous êtes un journaliste anglais de l'agence de presse AP. Vous étiez donc au stade samedi. Vous avez pris des vidéos de cette confusion. Mais ensuite, la sécurité vous a arrêté et vous a emmené dans une cabine, c'est ça ?
J'étais reporter accrédité sur le match et j'ai entendu parler d'un potentiel chaos au niveau des portes d'entrée. Donc je suis descendu et j'ai vu qu'il y avait des fans qui tentaient de manière sporadique de forcer la sécurité. Sans montrer de ticket, qu'ils en aient ou non, certains ont pu courir jusqu'au stade, d'autres ont été attrapés. Pendant quelques instants, j'ai pris une vidéo de ce qui se passait. Mais ensuite, un agent de sécurité m'a interpellé. J'étais choqué, on est quand même dans un pays libre. Il m'a pris le bras et il m'a emmené dans une petite cabine. Il a enlevé l'accréditation autour de mon cou, m'a dit de sortir mon téléphone et d'effacer les vidéos. J'ai appuyé sur supprimer, lui aussi. Il a regardé toutes mes vidéos, jusqu'à mes photos de famille. Il a photographié mon accréditation aussi. Et il m'a dit en français, c'est la dernière fois. Et là, enfin, il m'a rendu mon accréditation.
Qui était cet homme ? Un steward ou un policier ?
C'était clairement un agent de sécurité. Je pouvais voir son numéro sur son gilet orange. Ce n'était pas un policier.
Mais qu'est-ce qui était si compromettant dans cette vidéo, Steve Douglas?
Il était 20h15. C'était avant que ça devienne très tendu avec la police. Avant les gaz lacrymogènes et les sprays. Ce n'était même pas une vidéo aussi grave. Certes, ils étaient agressifs avec les fraudeurs, mais c'était justifié. Rien d'incroyable. Ils n'avaient pas le choix.
À ce moment-là, qui sautait au-dessus des grilles? Des fans de Liverpool ou alors des Français?
Le premier que j'ai filmé avait un t-shirt de Liverpool. Les autres avaient des vêtements classiques. Impossible de vous dire s'ils étaient supporters.
Steve Douglas, le gouvernement français, dès samedi soir, a dit en substance c'est la faute des supporters anglais. Est-ce que ça vous semble juste? Est-ce que ça vous semble vrai?
Je pense que c'est complètement faux. Je suis arrivé au stade à 17h30 et j'ai vu beaucoup de supporters de Liverpool assis au soleil, buvant de l'eau ou une bière. Puis j'ai marché vers 18h, vers l'entrée média, et j'ai vu beaucoup de fans arriver par la gare RERD. C'était 3 heures avant le match. Ils ont été guidés vers un goulot d'étranglement. Ils ont fait la queue des heures à côté des rails. J'ai vu leur inquiétude, ces gens écrasés contre les rails. Et ils disaient, nous avons des tickets, nous avons des tickets. C'est clair qu'il y a eu un manque d'organisation. Pourquoi les fans ont été envoyés dans cette direction, dans cet entonnoir si étroit? Pourquoi ont-ils été autorisés à y aller? J'ai entendu qu'il y avait des problèmes avec les machines à scanner les billets. Je pense qu'il y a eu un manque de communication, d'explication sur la raison pour laquelle ils ont été dirigé de cette façon.
Merci Steve Douglas, reporter de l'agence AP, reporter anglais, donc témoin de ce chaos, d'avoir été avec nous ce soir sur RTL.
Ok, no problem.
Mathieu Hanotin, je reviens vers vous, vous le maire de Saint-Denis. On vient d'entendre le témoignage de Steve Douglas. Les journalistes anglais, les supporters anglais et même le Premier ministre britannique ne digèrent pas vraiment la version initiale des ministres. Est-ce que pour vous aussi, les supporters de Liverpool, par rapport à ce que vous avez vu sur place, sont les victimes dans cette affaire?
Ouais, encore une fois, là-dessus, moi, mon but, c'est pas de désigner des coupables. Mmh. Ce que je vois. Alors d'abord, par contre, je veux quand même dire que je trouve vraiment choquant ce qui est arrivé à ce collègue
journaliste. C'est hallucinant.
Non, parce que je l'avais pas entendu, je le découvre là à l'instant, mais je ne sais pas qui est le truc, mais je l'invite vraiment à porter plainte parce qu'il y a la vidéosurveillance au Stade de France et on doit pouvoir retrouver...
Il y a un matricule du stadier.
Il y a un matricule du stadier, donc honnêtement, il faut que sur cette affaire, une plainte soit déposée, à l'évidence. Après, finalement, la question des Anglais. Je pense qu'il y a quand même un sujet, ne le nions pas, sur le fait que les faux billets, ils venaient du côté anglais. Enfin, je veux dire, si ça bloque au portillon dans les portes X, Y, Z et A, c'est parce qu'il y a des familles, y compris anglaises, qui ont acheté des billets, parfois de bonne foi, en pensant que c'était des vrais, mais c'est des faux. La Fédération française nous a montré ce matin les billets. C'est quasiment impossible sur un billet papier de voir la différence. En tout cas, à l'œil nu, moi, je ne la voyais pas, entre un vrai et un faux. Et en fait, on s'est retrouvé avec des familles, des gens qui étaient refusés, mais qui avaient payé leur billet, donc qui essayaient de négocier, qui voulaient rentrer. Derrière, ça poussait. Ils ne pouvaient plus reculer parce qu'il y avait trop de monde, parce qu'on avait trop attendu pour faire ça. Et quand vous avez un litige par porte, ça va. Mais quand vous en avez 100, 200, 300, et à la fin plusieurs milliers, parce qu'on sait qu'il y a au moins plusieurs milliers de billets, je ne sais pas si c'est 10 000, enfin plusieurs milliers, c'est sûr, plusieurs milliers de faux billets qui ont été là. C'est ça qui a fait bugger le système. Et ça, ça s'est quand même passé, qu'on le veuille ou non, du côté de Liverpool.
Autre fait, samedi soir, les vols à l'arraché autour du stade, on sait que des supporters anglais, espagnols aussi, ont été ciblés par des pickpockets. Le préfet évoque 300 à 400 jeunes du département qui ont aussi tenté de forcer le dispositif.
Il n'y a pas de connexion entre ces deux notions-là. C'est que,
sont deux faits différents.
Deux faits différents.
L'extrême droite, en tout cas, s'empare des deux faits. Et sur les réseaux sociaux, vous avez dénoncé, je cite, « la fachosphère qui cherche à salir votre ville et ses habitants ». Ces voyous, ils ne venaient pas de Saint-Denis ?
Alors, effectivement, fachosphère, Éric Zemmour, par exemple, qui a encore fait
les
un tweet...
Les racailles font la loi en Seine-Saint-Denis,
oui,
dit-il.
Qui a dit, le problème, c'est qu'on a construit le Stade de France, pas en France, où j'ai vu notre réjouissance de cette nature. Mmh. Moi, je suis vraiment scandalisé par ces propos d'hommes et de femmes politiques, Zemmour, Le Pen et compagnie, qui instrumentalisent le moindre problème pour essayer de justifier leur théorie. Il y a quand même des événements au Stade de France toutes les semaines. Et ça, ça n'arrive jamais. Oui, il y a eu des voyous qui sont venus, mais pas un peu. Il y a eu des dizaines de voyous qui sont venus. D'ailleurs, je l'ai pointé au ministre ce matin, une des failles du dispositif policier, c'est qu'il y avait des forces de l'ordre, unité de force mobile, voilà, pour gérer les flux, potentiellement les hooligans, mais on n'avait pas assez de forces de police traditionnelles, de personnel de la BAC, qui est pour aller choper des gens qui venaient agresser, qui venaient voler, qui venaient détrousser des personnes. Et ces gens-là, effectivement, je vous le dis, ce n'est pas un public de Saint-Denis qui est venu détrousser les habitants. C'est le Stade de France était devenu un peu le hotspot des délinquants d'Île-de-France qui pensaient faire une bonne affaire en trouvant des riches touristes anglais en particulier, espagnols, en disant qu'ils allaient se faire... C'est des gens qui devaient se balader avec plusieurs milliers d'euros en liquide sur eux, etc. etc. Et donc là, on a un problème majeur. Quand il y a un grand événement, de comment est-ce que ça ne devient pas un hotspot de la délinquance et comment est-ce qu'il y a une réponse pénale, judiciaire. On a fait une fan zone. On a fait 3 jours de fête avant la Coupe du Monde, avant la Champions League. Devant le Parvis de la Basilique, il y a une coupe géante qui a été mise. Il y a eu des Anglais, des Espagnols, des Dionysiens et des Dionysiennes. On a fait une fan zone avec le Real toute l'après-midi qui s'est super bien passé. Le soir, il y a une fan... ça a été ouvert aux Dionysiens et aux Dionysiennes. Il y avait 6 à 7 000 Dionysiens et Dionysiennes qui étaient là-bas, qui n'étaient pas autour du Stade de France. On l'avait fait exprès. Il n'y a pas eu un problème. Les problèmes ont commencé à 18h30 quand ces gens-là, je ne sais pas d'où ils viennent, se sont regroupés pour, en bande organisée, organiser du racket.
Merci Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Quelques heures donc après cette réunion avec les ministres, l'UEFA et les préfets, 48 heures après le fiasco donc de cette finale de Ligue des Champions. Merci d'avoir été notre invité. RTL Soir va revenir dans un instant avec vos dessous de l'actu, les dessous de l'horreur au Donbass. Un journaliste français y a été tué aujourd'hui. Comment travaillent les journalistes sur ces terrains? On va essayer de vous éclairer juste après ça, et puis laissez-vous tenter dernière toute autre chose, et on en a bien besoin, avec Abba sur scène en hologramme. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier.
RTL. 18h30, vous écoutez RTL Soir.
RTL Soir, avec Julien Cellier.
Marion Calais vous rappelle les 3 grands titres de l'actualité.
Paris demande une enquête transparente après la mort d'un journaliste français en Ukraine. Frédéric Leclerimoff avait 32 ans, il travaillait pour BFM Télé. Il a été victime d'un éclat d'obus alors qu'il suivait une opération humanitaire dans un véhicule blindé. 15 personnes toujours en garde à vue après les incidents au Stade de France samedi soir, sans rapport avec d'éventuels faux billets ou tentatives d'intrusion dans le stade. Et puis à Roland-Garros, la suite des 8e de finale, Isabelle Langer, le Russe Rublev face à l'Italien Sinner.
Et c'est Sinner qui fait la course en tête. Il a fait le break déjà. Il mène 3-1, 40-15 face à Rublev, le numéro 7 mondial. Sinner qui avait été quart de finaliste ici en 2020. Et sur le central, Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, est un tout petit peu accrochée quand même par la chinoise Zheng, même si elle mène 5 jeux à 4. Il y a 30 partout pour la chinoise sur son service.
Isabelle Langer à Roland-Garros tout à l'heure. Le jeune Holger Rune, le Danois, 19 ans, a sorti le finaliste de l'an dernier, Stefanos Tsitsipas.
Merci beaucoup Marion. Le temps demain, Claire?
Toujours des conditions assez calmes, avec malgré tout un petit peu d'instabilité sur le centre-est du pays et sur l'ensemble des reliefs, avec un mercure dans l'après-midi qui ne dépassera pas les 23 degrés pour la moitié nord et les 28 degrés pour la moitié sud.
Merci Claire.
RTL Soir,
Les dessous de l'actu.
Et les dessous ce soir du difficile travail de journaliste en Ukraine. On a appris cet après-midi, on vient de vous le dire, la mort d'un reporter français, Frédéric Leclerimoff, avait 32 ans. Il travaillait donc pour BFM Télé. Il circulait à bord d'un bus humanitaire dans le Donbass, l'est du pays. Il a été victime d'un éclat d'obus. On pense très fort ce soir à sa famille et à sa rédaction. Bonsoir Émilie Beaujard.
Bonsoir.
Vous vous êtes rendu en Ukraine ces dernières semaines pour RTL. Nos confrères, ils se trouvaient aujourd'hui dans une zone qui concentre tous les combats en ce moment.
Et oui, ils étaient sur une route dans l'est de l'Ukraine, pas très loin de Severodonetsk. Là-bas, les bombardements russes sont intenses ces derniers jours. Les civils sont piégés dans la ville, un peu comme ce fut le cas à Mariupol. Et c'est justement pour tenter d'aller chercher des civils que l'équipe de BFM TV était montée dans ce véhicule blindé, sur une route connue d'évacuation de civils. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois que les Russes bombardent des couloirs humanitaires. C'était le cas aussi à la sortie de Mariupol, où de nombreux civils nous avaient raconté avoir été visés par des frappes, alors même qu'ils étaient dans des convois avec des véhicules identifiés.
Le risque, Émilie, quand on est sur une telle zone de guerre, est-ce qu'on le jauge en permanence?
Oui, c'est une discussion permanente entre collègues, savoir où aller, savoir jusqu'où aller, parce que le front russe, il est très mouvant et donc très dangereux. La réalité d'un instant ne sera sûrement pas celle du lendemain. Et c'est pourquoi, avant de se diriger vers le front, on interroge les Ukrainiens, les civils, les militaires aussi, et bien sûr les autres journalistes.
Cette possibilité d'être touché, d'être visé, alors j'imagine que c'est du cas par cas, tout le monde ne réagit pas de la même façon sur le terrain, mais vous par exemple, est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours en tête sur ces zones de guerre?
C'est quelque chose à laquelle on pense, mais on essaie aussi de faire abstraction et de prendre toutes les mesures possibles pour être en sécurité, pour être à l'abri. Après, on le voit, hein, c'est une guerre et donc malgré toutes les précautions, on n'est jamais à l'abri de tout.
Au moment du drame, aujourd'hui, les journalistes de BFM, ils étaient deux. Alors Frédéric a été tué, son collègue a été blessé. Ils étaient accompagnés d'une fixeuse. On parlait de mesures de précaution. C'est un mot que le grand public ne connaît pas forcément. C'est quoi le rôle d'une fixeuse, d'un fixeur?
Eh bien, c'est une personne, alors là, en l'occurrence, dans ce conflit, un ou une Ukrainienne, qui accompagne en fait les équipes de journalistes. Un fixeur nous aide pour les traductions, pour trouver par exemple un endroit où dormir, pour savoir où aller aussi. On parlait tout à l'heure de savoir où aller, jusqu'à quel endroit, mais aussi pour nous aider à recueillir les témoignages des Ukrainiens. Ils nous mettent en relation en fait avec des gens qu'ils connaissent. Ce sont donc des personnes essentielles dans les conflits et je remercie donc aussi ce soir mes fixeurs en Ukraine qui ont bossé avec moi tout le mois de mars, Anna, Igor, Stepan et Ivan.
On pense à eux ce soir et la fixeuse en question là aujourd'hui va bien.
Oksana,
elle n'a pas été touchée lors de ce drame aujourd'hui dans le Donbass. Les dessous du difficile travail de journaliste aujourd'hui en Ukraine. Merci beaucoup, Émilie. On pense très fort ce soir, surtout aux proches de Frédéric Leclerimoff. On partage leur peine et on pense très fort à toute la rédaction de BFM TV.
RTL Soir. Les dessous de l'actu. Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr.
18h35.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, place maintenant donc à Laissez-vous tenter dernière, le rendez-vous dont on a tant besoin chaque soir et ce soir sans doute un petit peu plus. On va parler du grand retour d'ABBA maintenant sur scène, ou presque. 41 ans après leur dernier concert, eh bien les quatre Suédois ont fait leur comeback sous la forme d'Avatar. Bonsoir Steven Mellery.
Bonsoir à tous.
Alors vous étiez à Londres pour assister à ce spectacle baptisé Voyage.
C'est du jamais vu, un show hors norme, inclassable. Voyage est un choc qui commence comme ça. Agnetha, Frida, Benny et Bjorn arrivent depuis le sol. Ils sont là, devant nous. C'est technologiquement époustouflant et pour cause. Le quatuor a passé des semaines dans des studios bardés de capteurs de motion capture comme au cinéma à enregistrer des mouvements, des chorégraphies, les playbacks des chansons. Au final, leurs avatars sont plus vrais que nature, figés dans leur trentaine, à l'apogée du groupe, dans leur costume d'époque. Ils sont filmés, apparaissent comme dans un concert sur les écrans géants. On voit les rides et même les détails de leur visage.
Au niveau du concert, musicalement, comment ça marche, Steven?
20 titres au programme. Ouais. On entend en fait les voix de la tournée 79, mais aussi extraites des albums. 10 musiciens et choristes jouent en live. Mais ça n'est pas un vrai concert. Il manque cette petite tension du live et bien sûr l'interaction. Mais quelle bouffée de nostalgie! Le tout emballé par une mise en scène résolument moderne. On ne sait pas où donner de la tête tant tout notre champ visuel est titillé. Écran géant à 180 degrés, laser LED de 50 mètres de long, ça claque.
Et l'ambiance alors ?
Bah, bizarrement, pas terrible.
Ah bon ?
Eh ben non, pas folle. Le public se comportait un petit peu comme s'il était au cinéma, les pop-corns en moins. Ça n'est pas du spectacle vivant, ouais. Et ça se ressent. Geoffrey est venu spécialement de Belgique.
Pour moi, époustouflant. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre au moment où je suis arrivé, au-delà de toutes les espérances. Moi, je suis un fan depuis de longues, longues années. J'y ai cru dès la première seconde. C'était éblouissant. C'est vraiment magique. C'est absolument sidérant. Je ne comprends pas parce que les hologrammes, normalement, c'est transparent. On voit à travers et là, ils se touchent, ils s'enlacent, ils virevoltent. Les mouvements sont super fluides. Les cheveux, enfin, les rides, on voit tout. C'est extraordinaire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Pour moi, c'est révolutionnaire. Un long voyage du début jusqu'à la dernière seconde. Je suis encore tout ému.
ABBA et leur voyage, c'est à l'affiche à Londres pour encore une année pleine. Mmh. C'est une aréna qui est démontable, donc ils espèrent faire voyager le spectacle possiblement en France en 2023, fin 2023 peut-être.
Bon, bah alors vivement ABBA en France. On attend ça avec impatience. Merci beaucoup, Steven Mellery.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et dans un instant, on va défaire le monde dans RTL Soir. On va défaire le fiasco du Stade de France avec Cyprien Sini, Laurent Tessier et Céline Landreau. Bonsoir les amis.
Bonsoir, on n'est pas des hologrammes, nous.
Nous, non, pas encore.
On
pas
est en chair et en os.
Bientôt, vous serez remplacés par des hologrammes, Cyprien, forcément. Les stadiers étaient en première ligne face à ce chaos du Stade de France samedi soir. Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils sont assez formés ? Est-ce qu'ils sont assez payés ? Est-ce qu'ils sont prêts à faire face à une telle confusion ? Réponse juste après ça.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.